Avant de commencer le message, ce matin, j'ai ressenti très fortement qu'il fallait que je partage un petit peu de notre vécu avec ma femme, avec ma famille. Nous avons un enfant qui était un fils prodigue pendant des années, 25 ans de prière. Et je vous dis ça pour vous encourager, parce que dans l'Église, comme vous qui avez des enfants prodigues, vous voyez toutes les autres familles, tous les enfants sont en train de servir Dieu, mais dites, qu'est-ce que j'ai pas fait moi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Où est-ce que je me suis planté, Seigneur? Et un jour, Tim Keller était interviewé par une maison d'édition qui lui ont demandé d'écrire un livre sur comment élever les enfants chrétiens. C'est un gros sujet, ça. Alors, j'étais béni par ce que Tim Keller a dit. Il a dit, sur le mariage, je peux écrire un livre avec ma femme Cathy. Nous avons ramé en tant que couple. Nous avons appris à être mariés. Nous avons appris à être un couple uni. Nous avons appris ensemble. Donc, je peux écrire le livre. Mais pour ce qui est des enfants prodigues, et vos enfants, ça n'a rien à voir avec Cathy et moi, que nos quatre soient dans le ministère. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons bien fait, mal fait. C'est tout la grâce de Dieu. Et puis ensuite, il a dit, Dieu ne m'a pas donné le privilège d'avoir des enfants prodigues. Pourquoi ça? Ce que nous avons appris avec des enfants prodigues, Dieu nous a enseigné à prier. Dieu nous a enseigné à prier. Le matin, on se lève avec ma femme. Nous avons des chants de proclamation que nous chantons, que nous prions sur nos enfants. Nous écoutons des trucs qui sortent de Bethel, des louanges. I speak Jesus, je parle Jésus, je dis Jésus, ce chant-là. Et pendant des années, nous avons prié et proclamé la vérité sur nos enfants. Ce que je vous dis, c'est que mon fils dirait dans un témoignage, d'accord? Pendant 25 ans, il a été victime de quelque chose quand il était gamin. Et pendant 25 ans, il s'est battu avec un mal-être pas possible. À 12 ans, on lui offre un joint au puits en velay. Et il prend le joint et tout d'un coup, il se sent bien. Le mal-être dedans n'était plus là. Et ça a commencé un voyage chez lui. Où il s'est éloigné de nous, il a commencé à rejeter Dieu. Et nous, on a prié, comme vous, on était désemparés, on ne savait pas quoi faire. On s'est accroché à Dieu, on a prié. On a des amis comme Andrew Wilkinson qui sont passés nous voir à des moments propices avec notre fils, qui ont dit, il est passé, il nous a encouragés. Et 25 ans plus tard, cette année, au mois de février, mon fils est en Floride, en pleine drogue. Il venait de faire 2 années de sursis. Parce qu'il vous dira dans ce témoignage qu'il a été arrêté par la police, mis en prison. Et il dira, mais Dieu m'a arrêté. Et pas la police, c'est Dieu qui m'a arrêté. Parce qu'il fallait quelque chose pour casser ce truc en moi. Il se retrouva en prison. Il nous suppliait tous les jours, « Papa et maman, envoyez l'argent pour que la caution, comme ça je peux sortir. » Dieu nous a dit, « Non, vous le laissez là. » Dur. Et on a écouté Dieu. Et Dieu a travaillé son cœur. En février, il me dit, je viens de terminer le sursis, mais je me bats encore avec la drogue. J'ai essayé d'arrêter la méthadone, parce qu'elle a fait l'héroïne pendant le sursis, pendant le Covid. J'ai essayé d'arrêter la méthadone tout seul, et physiquement, ça l'a presque tué. Il m'a téléphoné en France, il m'a dit « Papa, est-ce que tu peux venir et être avec moi pendant 2 ou 3 semaines pour m'aider physiquement à m'en sortir ?» Et maintenant, je suis prêt à changer de direction. Et donc, j'étais là-bas, on l'a soigné, je l'ai soigné dans l'hôtel, à manger, passer des heures, à imposer des mains sur lui, prier en langue sur lui, prophétiser sur lui, lui donner des massages parce qu'il avait des mal au corps. Mais ce que j'ai vu Dieu faire, incroyable. Pendant ce week-end, il m'envoie un texto, il me dit « Papa, je prie pour toi quand tu prêches. » C'est pas beau ça? Je vous dis ça, frères et sœurs, si vous avez des enfants qui sont des fils prodigues, n'arrêtez pas de prier pour eux. N'arrêtez pas d'avoir une relation avec eux. N'arrêtez pas d'être des pères et des mères spirituels pour eux. N'arrêtez pas. Quoi qu'ils fassent, la relation est tellement importante. Donc, restez avec vos enfants, marchez avec eux, au milieu de leur, tous leurs trucs qu'ils font, soyez avec eux. Je ne veux pas vous donner d'espoir que Dieu va répondre dans cette vie. Moi, j'ai des amis qui ont prié pour leurs enfants. En fait, leurs enfants sont venus à Christ après leur mort. Tout ce que je sais, c'est que Dieu nous appelle. Si on a des fils prodigues, il nous enseigne à prier. Et puis, priez pour les fils prodigues de vos frères et sœurs en Christ aussi. Nous, on prie pour d'autres fils prodigues, d'amis à nous. On les nomme, ces fils et ces filles. Dieu veut ramener les fils et les filles prodigues. Mais il nous appelle, le peuple, à prier. Et puis, ceux qui ont des fils prodigues, surtout ne les condamnez pas, ne leur dites pas « Qu'est-ce que tu as mal fait ?» Je l'ai entendu, celle-là, hein. Que j'ai des enfants qui suivent Jésus, c'est une question de la grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi ou ma femme, ou le service que je fais pour Dieu. Rien à voir avec ça. C'est tout la grâce de Dieu. Et je pensais que c'était important pour vous. Ça. J'aimerais vous inviter à revenir à la source, d'accord? On revient à la source avec laquelle on a commencé le week-end. Et de relire encore Matthieu 28, 18 à 20. Vous allez dire, mais il le lit beaucoup ce passage. Vous savez, je suis fils de missionnaire, missionnaire depuis 41 ans. Je lis depuis des années ce passage et Dieu me parle toujours quand je le lis. Il y a des choses nouvelles qu'il va montrer. Donc, continuez à laisser ça formater votre vie. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Durant cet enseignement, j'aimerais communiquer une chose. Dans une église qui fait des disciples, vous savez ce qui est important? C'est des communautés d'apprentissage, des lieux où nous apprenons ensemble, des petits groupes relationnel, où on ne vit pas que l'étude biblique, on vit l'étude biblique, mais on vit le partage de la vie des uns des autres, on vit la redevabilité, on vit de partager des témoignages, de partager des défaites. Mais où on vit, qu'est-ce que c'est d'apprendre à être un disciple de Jésus-Christ qui sera capable de former d'autres disciples? ça se fait toujours en petits groupes, frères et sœurs, des groupes relationnels. Et vous vous souvenez, j'ai commencé avec cette idée des paradigmes. Eh bien, c'est un paradigme, un changement de paradigme que je vous invite à voir. Parce que comment est-ce que Jésus a commencé sur la terre? Il a commencé avec un petit groupe de 12. Nous, on nous parle toujours de ces 12 bonhommes. En fait, il y avait un groupe de 12 hommes et il y avait des femmes aussi qui suivaient. Et il a choisi un groupe pas du tout hétérogène, éclectique, oppositionnel, un collaborateur avec les Romains, un Simon le Zélote qui veut tuer tous les Romains. Simon le Zélote, ça voulait dire qu'il était formé comme un assassin. Formation militaire, comme un assassin pour assassiner les Romains. Donc imaginez ces deux-là ensemble. Ensuite, il y avait les deux fils du tonnerre. Eux, ils étaient connus parce que sont allés dans un village où le village ne voulait pas recevoir ce que Jésus avait à apporter au village. Et le village a rejeté Jésus. Et ces deux-là, en sortant du village, ont dit « Mais Seigneur, il faut invoquer le feu du ciel qui tombe sur eux !» Et là, ils ont hérité d'un sobriquet, les fils du tonnerre. Il y en avait un autre, un pêcheur de poissons, hein, tellement sûr de lui qu'il avait une grosse gueule. Il disait tout le temps ce qui lui passait exactement par la tête. Il avait très confiance en lui en plus. Et puis il y avait au milieu de ça un avare, un voleur qui cachait son jeu et qui un jour allait trahir Jésus. On pourrait nommer les autres disciples, les André, qui calmement sont allés chercher celui qui avait le pain. Vous vous souvenez dans la foule, le petit avec le pain. Tout ce groupe-là, il a rassemblé, pourquoi? Pour apprendre ensemble. Et il a pris ses 12, il les a formés. Vous savez le sermon sur la montagne? Ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus rassembla autour de lui, imaginez, autour de lui, les disciples, et ensuite il prêcha le sermon sur la montagne. Vous savez, les premiers concernés par le sermon sur la montagne, c'était les disciples autour de lui. Jésus parlait à ses disciples. Il a pris ces personnes qui allaient être une communauté d'apprentissage où ils allaient apprendre à vivre d'une manière nouvelle, comme ils n'avaient jamais vécu jusqu'à là. Et comment est-ce que ça a commencé? On va revenir à Matthieu 4, 19. On va revenir à deux frères, Pierre et André, qui sont en train de jeter un filet au bord de la mer, et Jésus vient les voir. Il leur lance une invitation, et on va regarder cette invitation rapidement pour terminer le week-end, d'accord? Alors, Matthieu 4, 19. Et l'invitation que Jésus a adressée à Pierre et à André, frères et sœurs, c'est une invitation qui s'adresse à chacun de nous aussi. Et c'est pour ça qu'on va le prendre trois points dans cette invitation. Premier, deux mots. Suivez-moi. Tu quittes ce que tu es en train de faire. Tu tournes ta vie à ce qu'elle était avant et tu me suis. Suivez-moi. Si je suis le Seigneur, Il est le chef, il est le maître de ma vie. C'est lui qui initie, c'est lui qui guide chaque décision que je prends. Comme Jean 12, 26, comme Jésus le dit lui-même, celui qui me sert doit me suivre. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous voyez, Jésus leur a dit, suivez-moi. Et il leur a dit, suivez-moi pas à pas. Pas à pas. Mettez les pieds où je mets les pieds. Si nous voulons être des disciples, nous avons besoin d'apprendre à suivre ainsi. En obéissance. Et Jésus, dès le départ, il leur dit, le voyage ne sera pas facile, disciples. Matthieu 16, 24. Puis, parlant à ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits. Waouh ! Dans notre monde, dire aux gens autour de nous de renoncer à leurs droits, mais c'est revendiqué contre-culturel ça. Nous sommes dans une culture où on se bat pour ses droits tout le temps. J'ai droit à deux. Qu'est-ce que Jésus dit ? Qu'il renonce à ses droits sur lui-même. Ensuite, qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire qu'il porte l'instrument sur son dos qui va le tuer chaque jour. Parce qu'on est appelé à mourir chaque jour. Cette croix est un rappel. Dans les années 70, j'ai eu le privilège d'être le traducteur pour Arthur Blessit quand il est passé en France. C'est un homme qui a fait le tour du monde avec une croix sur le dos. Et il fallait voir le style de vie de ce bonhomme. C'est un homme hors norme. Arthur, c'est une autre norme de vie. Mais il a fait le tour du monde avec sa croix. Il est passé en Palestine avec sa croix. Il est passé dans des pays incroyables. Mais quand j'ai marché avec Arthur Blessit, la pratique, c'est qu'on portait la croix à tour de rôle. Donc, on est sur la route de la Nationale 10 entre France à Bordeaux, donc, entre Bordeaux et l'Espagne, d'accord ? C'est la route nationale 10, avec la croix sur le dos, et on marche. Toute la journée. Ça vous rappelle quelque chose, quand même, hein, quand vous portez ça sur le dos. Et Jésus, il a dit de se charger de sa croix, l'instrument qui nous montre que nous avons besoin de mourir tous les jours à nous-mêmes, tous les jours renoncer à nos droits. Et ensuite, Jésus dit, et qu'il marche sur les traces de mes pas. C'est comme ça que Jésus nous a dit de le suivre. Mais aussi, Jésus promet que ceux qui le suivent ne seront jamais abandonnés. Vous vous souvenez ? Le verset 20, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il y a aussi un avertissement dans 25, Matthieu 16, 25, où Jésus dit, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Vous voyez comment Jésus nous appelle à marcher ? Pas à pas avec lui. Tous les jours. premiers deux mots, suivez-moi. Ensuite, cinq mots, et je ferai de vous. Et je ferai de vous. Jésus vous a appelé pour vous transformer. Il ne vous a pas appelé pour rester tel que vous êtes. Il nous a appelé pour être transformés. Un nouvel homme, une nouvelle femme. Et qu'est-ce que Jésus va faire quand il dit à ses disciples, « Et je ferai de vous ?» Nous, on connaît l'après-Jésus. En fait, ces hommes qui ont suivi Jésus, ces femmes qui ont suivi Jésus, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va transformer ses disciples en des nouvelles créatures. C'est ce que Paul nous dit. Romains 8, 29 nous dit, nous sommes destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Cette image de l'image, cette métaphore qu'il nous donne sur être à l'image du Christ, c'est important. Parce que, en fait, ce que Dieu veut faire, c'est que l'image de qui nous sommes change et que nous devenions à l'image du Christ. Même chose, 2 Corinthiens 3, 17 et 18, nous sommes transformés en son image dans une gloire qui ne cesse de grandir. C'est ça être disciple, grandir dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Pourquoi? Pas parce que nous sommes tellement pieux et tout ça. Non, parce que Jésus, de plus en plus, son image est en nous et sort de nous. Et les autres voient l'image du Christ de plus en plus. C'est Jésus qui vous a invité à devenir des disciples, mes frères et sœurs. Mais quand il vous a invité, il a dit, « Je vous ferai. » Il va vous transformer. Il va vous changer. Il va nous confronter. Il va dire, « Philippe, il faut que ça change, ça. Ça ne peut pas rester comme ça. » Nous allons être repris, corrigés, exhortés. Un jeune homme que je suis en train d'accompagner, j'ai dit un jour à ce jeune homme, « Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus pleinement, mon ami? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever, de dire, « Seigneur, j'y vais jusqu'au bout. Je veux devenir tout ce que tu veux que je sois dans l'église pour te servir. » J'ai dit, « Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça, mon ami ?» Je ne donne pas de nom exprès. Il m'a dit, « Je me bats avec une addiction à la pornographie Internet. » J'ai dit, est-ce que tu es prêt à avoir la victoire sur ça? Est-ce que tu veux en finir avec ça? Il m'a dit, ah oui, je veux en finir avec ça. Je n'en veux plus de ça. J'ai envie d'arrêter. Et on a commencé à travailler sur ça ensemble. La raison que je parle de ce jeune homme, c'est que ce jeune homme est un des responsables d'un groupe de jeunes dans une de nos églises. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait comme responsable de groupe de jeunes? Pourquoi? Il est dans le processus de devenir disciple. Il est en train de changer. Parfois, il se casse la figure et il va téléphoner à son responsable et dire, écoute, je me suis planté là. Et le responsable va lui dire, eh bien, relève-toi et repars et continue à te battre contre ce truc. Vous savez ce qui est en train de se passer dans sa vie? Il est en train d'apprendre à être disciple, il est en train d'apprendre à résister au mal. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Ça a été mentionné plusieurs fois ce matin. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et c'est par la grâce que vous continuez dans cette construction de disciples dans votre vie. On peut penser, je ne sais pas comment vous pensez, mais moi, comme j'ai été élevé, parfois je me souviens de « si je veux être disciple, il faut que je fasse. » Bon, je vais faire attention, je vais marcher comme un disciple. Et ça dépend de moi. Non, ça a commencé par la grâce, ça a continué par la grâce. Ce jeune homme est en chemin. Il est en chemin, il y en a d'autres comme lui. Je sais qu'il y en a ici, dans l'église. Pour vous rendre à l'aise, frères ou sœurs qui se battent avec ça, aux États-Unis, donc c'est aux États-Unis, donc on ne peut pas dire que ça vous concerne, mais on dit au pasteur, quand vous regardez votre assemblée, la moitié des bonhommes dans l'église se sont battus ou se battent avec la porno actuellement. Donc, si c'est votre problème, frère ou sœur, parce que c'est les deux, parlez avec un père ou une mère spirituelle. Demandez de l'aide pour être un disciple. On pense que Dieu nous a couverts par la grâce en nous sauvant, mais en fait, dans le être disciple qui va former des disciples, cela continue par la grâce. C'est ça qui est extraordinaire. Si on lit les évangiles, on voit que nos bonhommes, nos disciples, ce n'étaient pas des géants spirituels. Ils étaient en chemin, en train d'apprendre aussi. Ils étaient des bonhommes qui se sont battus avec des luttes égoïstes, des enjeux de pouvoir. C'était tout là. Des pécheurs. Jésus n'a pas choisi les disciples parce qu'ils avaient quelque chose de spécial. Il a choisi les disciples en sachant ce qu'ils allaient devenir une fois qu'ils étaient disciples et remplis du Saint-Esprit. Il a choisi les disciples en sachant ce qu'ils allaient devenir. Vous n'êtes pas emprisonnés dans votre présent aujourd'hui. Il vous a choisi parce que il sait ce que vous allez devenir, frères et sœurs. Sa grâce continue. Pendant tout ce temps d'être disciple, on continue à compter sur Dieu. On continue à dépendre de la grâce de Dieu. Paul, par exemple, dans Éphésiens 3, 17, il dit que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Mais trois paroles de plus, qu'est-ce qu'il va faire de vous, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il va faire de Pierre et de son frère? Des pécheurs d'hommes. Les trois derniers mots conduisent à une réponse d'action, une réponse à une manière de vivre. Et qui affecte ce pourquoi nous vivons et qui affecte comment nous vivons. Nous sommes appelés à être des pécheurs d'hommes. Cela signifie qu'on rejoint Jésus dans sa mission d'aimer et de faire des disciples autour de nous. Amen. Souvenez-vous, les disciples, ça ne commence pas toujours dans l'église. Les disciples, ça commence dans l'entreprise aussi. J'en parlais avec des frères ici pendant ce week-end. Je suis mentor, je suis coach professionnel. Et moi, je me sers de cette capacité que Dieu m'a donnée de coacher, de mentorer des jeunes pour pouvoir mentorer des gars et des filles qui ne sont pas chrétiens dans les entreprises. Ça m'arrive d'aller dans les entreprises et d'aider l'entreprise à s'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à donner et puis ça me donne l'occasion de faire briller l'image de Jésus dans l'entreprise et qu'il voit ce que c'est de suivre Jésus. Ce n'est pas que religieux, ça va jusque dans la vie. Alors, pour terminer, Jésus a commencé en créant une communauté d'apprentissage avec un petit groupe. Et il a appris à ce petit groupe comment le suivre. Et je suis convaincu que cette idée de petit groupe, ça continue dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes une grande Église, mais dans cette grande Église, il y a toujours des petits groupes. Des petits groupes de croissance, peut-être. Peut-être un groupe de maison. Vous allez apprendre à être des disciples ensemble. Peut-être un groupe de maison, vous allez faire The Chosen. Vous allez inviter des amis non chrétiens de se joindre à vous, chez vous, dans votre maison. Mais l'Église n'est pas faite que pour se retrouver et célébrer ensemble le dimanche en grand groupe. En fait, l'Église, elle est faite comme Jésus l'a montré. La croissance spirituelle s'effectue dans des petits groupes relationnels où les gens se connaissent. Et ce que j'aimerais terminer avec, c'est le verset 10 de Éphésiens 2, et ensuite lire une bénédiction sur vous. D'accord ? C'est Paul qui écrit. Éphésiens 2, 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Avant que le monde n'existe, frères et sœurs, votre Père Céleste avait préparé des œuvres pour vous, pour les accomplir. Paul dit, une vie riche d'œuvres bonnes, riche d'œuvres bonnes, remplie d'œuvres bonnes. Cherchez ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour vous, frères et sœurs. Faites partie d'un petit groupe pour que vous puissiez grandir dans votre foi, grandir comme des disciples, apprendre à être un disciple qui peut faire d'autres disciples. Et ensuite, allez et en route, faites des disciples. Allez, frères et sœurs, et en route, faites des disciples. Accomplissez ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs avec ces paroles. Qu'ils aillent et qu'ils l'accomplissent en ton nom, Jésus. Amen.
Amen. Alors, quelques annonces encore rapidement. Pour dimanche prochain, nous allons nous retrouver, pas à Gagnères, mais dans nos locaux. Je voudrais rappeler qu'il y a pour les personnes engagées le cadre de Enfance et Jeunesse une réunion de pré-rentrée, samedi le 14, n'est-ce pas, Cyril, c'est bien ça, hein, autour de Alissa et des différentes équipes qui sont conviées. Je voudrais aussi. Gérard, j'ai bien vu une main. D'accord. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à prendre le temps quand vous allez recevoir le livret de rentrée, de vraiment bien noter les dates qui vont être mises sur une seule page A4 en tout début, de vraiment noter les rendez-vous communs auxquels vous êtes par avance conviés, mais également pour prier pour tous ces rendez-vous. Nous avons prié, bien sûr, pour les binômes de commission. Et je crois que dimanche prochain, nous aménagerons également le culte pour prier pour les équipiers des services qui se remettent aussi en place. dans l'année. Donc nous n'oublions pas, il n'y a pas que les commissions dans l'Église, il y a aussi nos responsables Horizon, jeunes adultes de 18 à 25 ans. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Ça ne vous dérange pas? Super, merci aussi pour les autres là-bas. Donc nos adultes, nos jeunes adultes de 18 à 25 ans qui sont là et qui portent vraiment de belles choses. Le moment venu, je n'ai pas envie de spoiler, le moment venu, ils communiqueront là-dessus avec, avec Cyriel et ses co-responsables. Ils forment aussi une équipe au niveau de Horizon. Nous avons un sujet de prière aussi pour savoir comment accompagner les plus de 25 ans. C'est pas l'Église n'est pas juste là pour les 14-18, 18-25. Il y a aussi les plus de 25 ans qui rentrent dans une autre saison aussi de vie de plus en plus, puisque les études se prolongent. Mais c'est aussi le temps parfois de la vie de couple, ou en tout cas de l'installation. Parfois c'est le rêve, c'est le cas aussi des batailles fraternelles, professionnelles, avec une carrière. Il y a des soucis, nous voulons savoir comment les entourer. Donc c'est aussi un sujet de prière que nous déposons. Nous déposons sur votre cœur pour accompagner. Et puis, vous allez vous dire, mais alors, ça s'arrête à 40 ans. Non, et vous allez tenter de vous dire, mais qu'est-ce que l'Église pense pour les plus de 40 ans? Je vous dis, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des personnes qui viennent me voir, qui ont cœur, qui me disent, mais moi, cette année, Dieu est en train de me parler, de me mettre des trucs dans le cœur. D'ailleurs, il y a ces personnes, allez à la commission enfants, jeunesse et famille et allez fleurir là-bas. Et moi, je crois que j'ai quelque chose pour les seniors, j'ai quelque chose pour eux. J'ai dit yes! Donc il y a des choses qui sont en train de bouger dans les cœurs. Il y a des choses qui vont bouger pour les familles également. Par exemple, nous allons avoir Peggy et Étienne Likowski qui vont venir pour le 23-24 novembre. Hein, nous parler, on va organiser, on va s'appuyer sur les uns et les autres pour vivre un temps famille. Peut-être que la commission va nous proposer, va déléguer à des personnes peut-être d'organiser des week-ends famille, des week-ends couple, des week-ends célibataires, etc., etc. Il y a des belles choses qui sont en préparation. Et tout ça demande d'être arrosé par nos prières. Et surtout, tout ceci nous demande d'être des Barnabas pour les encourager. Voilà, donc merci de noter qu'on va continuer dimanche prochain dans la prière.